pie, todos contra la reacción, todos contra el fascismo.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. La guerre d'Espagne est-elle la première guerre contre le fascisme? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Mercedes Yusta. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, 1939, la victoire franquiste. En juillet 1938, avec la bataille de l'Ebre, les républicains espéraient retourner le cours de la guerre. Ils avaient beaucoup espéré aussi de la conférence de Munich, fin septembre. Cette conférence où finalement, les Français et les Britanniques ont préféré se plier aux exigences d'Hitler en Tchécoslovaquie, plutôt que de lui déclarer la guerre. Le déclenchement d'une seconde guerre mondiale contre l'Allemagne nazie aurait pu, par entraînement, transformer l'Espagne républicaine en partenaire de la France et du Royaume-Uni, un espoir qui donc a vite été balayé. En novembre 1938, la défaite républicaine de l'Ebre va précipiter la fin de la guerre. Cette défaite est aussi une tragédie sociale. Des milliers de jeunes recrues mobilisés dans l'urgence y laissent leur vie. Âgés de 16 ou 17 ans et sans expérience du combat, ils appartenaient à la classe 1941, surnommée la Leva del Biberon, la classe du biberon. En décembre 1938, l'offensive franquiste sur la Catalogne tourne au fiasco pour les républicains. Et sans grande surprise, Barcelone tombe le 26 janvier sans avoir vraiment résisté, suivi le 28 mars par Madrid. Le 1er avril 1939, à 22h30, la Radio Nacional de España, radio du camp nationaliste, diffuse son dernier communiqué de guerre.
Aujourd'hui, ayant capturé et désarmé l'armée rouge, les troupes nationalistes ont atteint leurs derniers objectifs militaires. La guerre est terminée. Burgos, 1er avril 1939, le généralissime Franco.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Ce message affirme que les objectifs militaires des nationalistes sont atteints, mais donc pas les objectifs politiques. D'ailleurs, deux jours après, le 3 avril 1939, un autre message de Franco à la radio annonce clairement la vengeance politique qui se prépare. Espagnol, attention, l'Espagne est toujours sur le pied de guerre contre tout ennemi de l'intérieur comme de l'extérieur. Les combattants républicains et leurs proches l'ont bien compris, puisque dès le mois de janvier, près d'un demi-million de personnes ont déjà pris la route pour passer la frontière française et tenter d'échapper à la répression. C'est le début de la retraite, la retirada, qui conduira des centaines de milliers de réfugiés sur les routes de l'Exode, dans le dénuement, le froid, la neige et sous les bombes des avions franquistes. Côté français, les autorités, partagées entre la crainte de l'invasion d'une horde rouge et le respect des valeurs républicaines, n'ont pas anticipé cette arrivée soudaine et massive. On ouvre en hâte des camps d'accueil qui ressemblent fort à des camps de concentration. Mais côté espagnol, pendant ce temps, ce sont de véritables camps de concentration qui se remplissent d'opposants, transformant l'Espagne en une immense prison. Le journaliste et écrivain Joseph Kessel, qui a couvert une partie de la guerre d'Espagne, se souviendra plus tard du combat acharné des républicains.
Malgré leurs différences de parti profondes, les communistes, les anarchistes, les socialistes et même certains éléments bourgeois étaient tous unis par la haine du fascisme et prêts à combattre vraiment presque jusqu'à la mort avant d'accepter cela. Et ils ne l'ont accepté qu'à bout de munitions, à bout de force, à cause d'une disproportion monstrueuse d'armement, car les gens de Franco étaient abondamment munis d'avions, de tanks, de canons par les Italiens de Mussolini et les Allemands d'Hitler. Ils avaient des escadrilles entières d'aviateurs italiens et d'aviateurs allemands, tandis que du côté des républicains, il n'y avait vraiment rien.
Mercedes Yusta, Joseph Kessel dit que le camp républicain était uni. Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'on en a dit aussi que ces divisions ont pu être fatales au camp républicain?
En fait, ce qui a été fatal au camp républicain, c'est surtout la disproportion et dans l'armement et dans l'aide internationale.
Vous êtes d'accord avec Joseph Kessel?
Oui, complètement. Et en fait, effectivement, il y avait des divisions dans le camp républicain, mais c'est pas ça vraiment qui a été définitif pour la déroute républicaine.
C'est... Et le manque de soutien des démocraties, des Français, et des Britanniques.
Oui, le manque de soutien a été un facteur important. important de la défaite finale de la République. Il y a aussi d'autres éléments dont on n'a peut-être pas le temps de parler, mais par exemple, la République, elle a dû accueillir plus d'un million de réfugiés qui venaient d'autre part de l'Espagne, qui fuyaient le franquisme, et le camp franquiste n'a pas eu ce problème-là. Et en fait, ce million de personnes étaient dans un total dénouement, et il y a eu des problèmes de famine dans l'Espagne républicaine, alors que l'Espagne franquiste, c'est toute l'Espagne céréalière, donc ils n'avaient pas de problème d'approvisionnement. Il y a eu des grosses difficultés auxquelles le camp républicain il a dû faire face.
Vous écrivez dans votre livre que la fin des combats au printemps 39 ne marque en rien la fin de la guerre. Que voulez-vous dire ? Il y a une forte répression qui se met en place ?
En fait, la violence qui a lieu dans l'arrière-garde franquiste, elle va se prolonger pendant l'après-guerre. Il n'y a pas de différence en fait entre avant et après 39. La différence, c'est que les combats s'arrêtent, mais la guerre en elle-même ne s'arrête pas. C'est Franco lui-même qui lui dit « la guerre n'est pas finie ». En fait, le combat continue parce qu'il faut en finir avec l'ennemi complètement.
Il y a une grande répression.
Et oui, la répression elle est vraiment très importante, surtout pendant les premières années de guerre. Et d'ailleurs, il y a des territoires où il n'y a pas eu de combat. Par exemple, la Galice, qui tombe tout de suite sous les mains des insurgés. Il y a une énorme violence qui se déclenche dès le moment même du coup d'État. Et les Galiciens ne vont pas connaître la guerre que sous cette forme-là. Et cette forme-là, elle se prolonge après 39. Les dernières estimations considèrent que pendant la guerre, il y a à peu près 120 000 civils morts dans le camp franquiste, 50 000 dans le camp républicain.
Oui, donc une grande disproportion.
Et 50 000 autres après 39 par la répression franquiste, une fois que la guerre est finie. Donc effectivement, il y a une grande disproportion entre les deux camps, mais en plus, il y a 50 000 morts de plus après 39.
Vous dites qu'aujourd'hui, en Espagne, il y a encore l'idée que, enfin, en tout cas jusque dans les années 2000, on pensait qu'il y avait une équivalence en fait, entre la violence du camp républicain et la violence du camp des insurgés, du camp franquiste. Or, la découverte des charniers au début des années 2000, la société espagnole a découvert que le sol du territoire était jonché de fosses communes et que c'était surtout des victimes du franquisme. Et du coup, la balance allait pencher plus d'un côté que de l'autre.
Oui, en effet, et en fait, les historiens ont beaucoup travaillé dès les années 80, en fait, pour établir ce chiffre de victimes de la guerre civile. Mais en fait, l'idée qu'il y avait des responsables de la guerre qui étaient ceux qui avaient fait le coup d'État a eu beaucoup de mal à s'imposer dans la société espagnole. Et une des raisons, effectivement, c'était l'idée qu'il y avait une équivalence entre les morts des deux camps. Or, on découvre, surtout comme vous le dites après les années 2000, qu'il y a beaucoup de morts qui n'ont jamais été recensées, en fait. Donc en ce moment, il y a des études qui sont en train d'être menées et qui ont modifié cet équilibre des chiffres qui n'a jamais été un vrai équilibre, parce qu'en fait, il y avait toujours eu plus, la conscience qu'il y avait plus de victimes quand même du côté franquiste, du moins depuis la démocratie. Mais maintenant, on voit que ce déséquilibre est vraiment très important. Dans les années 2000, il y a eu un mouvement social très important qu'on a appelé mouvement pour la récupération de la mémoire historique qui a dénoncé cette violence du franquisme. Finalement, on n'est jamais arrivé dans la société espagnole à un vrai consensus par rapport à la nature de cette dictature franquiste et à une vraie condamnation officielle de la part de l'État espagnol. En fait, c'est arrivé très tard. Et en fait, cette condamnation arrive effectivement dans les années 2000 et deux générations après la fin de la guerre. C'est un peu tard pour qu'il y ait une vraie conscience de la responsabilité portée par la dictature dans toute cette violence.
Merci beaucoup Mercedes Yusta, je conseille vivement la lecture de votre livre qui a été écrit avec les historiens François Godichaud et Pierre Salmon. Le livre s'appelle « La guerre d'Espagne 1936-1939, la démocratie assassinée ». Il a été publié aux éditions Talendier. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Maria Pasquet et Claire Destacan, assistée de Frédéric Martin et Anne-Cécile Perrin. À la technique, Nicolas Delmas et Noé Chaban au mixage. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends comme toujours vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.